Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Dans Lectures en liberté, nous revenons donc à la nouvelle de James Joyce, Les Morts. « Il n'a pas l'air mal, n'est-ce pas ?» dit tante Kate à Gabriel. Gabriel avait froncé les sourcils, mais il les détendit aussitôt et répondit « Oh non, c'est à peine perceptible. »« N'est-ce pas qu'il est terrible ?» dit-elle. Et dire que sa pauvre mère lui avait fait jurer d'être tempérant la veille du jour de l'an. Mais venez, Gabriel, allons au salon. Avant de quitter la pièce avec Gabriel, elle fit signe à M. Brown en fronçant les sourcils et en remuant son index de droite à gauche. M. Brown, en manière de réponse, hocha la tête. Et quand elle fut partie, il dit à Freddy Malins : À présent, Teddy, je vais vous verser un bon verre d'eau gazeuse, histoire de vous remonter. Freddy Malins, qui atteignait l'apogée de son récit, repoussa l'offre impatiemment. Mais M. Brown, après avoir détourné l'attention du jeune homme sur un léger désordre de sa toilette, lui remplit un verre d'eau gazeuse et le lui tendit. La main gauche de Freddy Malins reçut le verre machinalement, sa main droite étant occupée à rétablir le désordre de sa toilette. M. Brown, dont la figure une fois de plus se plissait en une gaieté contenue, se versa un verre de whisky. Tandis que Freddy Malins, avant même d'avoir atteint le point culminant de son récit, s'esclaffait et, ayant déposé son verre débordant encore intact, se mit à frotter son œil gauche de son poing gauche, répétant sa dernière phrase autant que son accès d'hilarité le lui permettait. Gabriel n'arrivait pas à écouter Mary Jane, tandis qu'elle jouait son morceau de concert rempli de traits et de passages difficiles dans le salon devenu subitement silencieux. Il aimait la musique, mais il ne percevait, quant à lui, nulle mélodie dans le morceau qu'elle jouait, et il n'était pas sûr que les autres en perçussent davantage, bien qu'ils eussent supplié Mary Jane de leur jouer quelque chose. Quatre des jeunes gens, en entendant le piano, avaient quitté le buffet pour se tenir dans l'encadrement de la porte. Mais après quelques minutes, ils étaient repartis sans bruit, deux par deux. Les seules personnes qui se montraient attentives étaient Mary Jane elle-même, dont les mains couraient sur le clavier ou demeuraient suspendues durant les points d'orgue, ressemblant à celles d'une prêtresse qui se livrerait à des imprécations momentanées, et tante Kate, qui se tenait derrière elle, pour lui tourner les pages. Les yeux de Gabriel, éblouis par le parquet dont l'encaustique scintillait sous le reflet du lustre, se dirigèrent sur la muraille, au-dessus du piano. Une reproduction de la scène du balcon dans « Roméo et Juliette » y était accrochée. Et à côté se trouvait le tableau du meurtre des enfants d'Édouard dans la tour, brodé par tante Julia avec des laines rouges, bleues et marron, alors qu'elle était enfant. Sans doute qu'à l'école, on leur avait appris pendant un an ce genre d'ouvrage. La mère de Gabriel lui avait brodé pour son anniversaire de petites têtes de renard sur un gilet de moire pourpre, doublé de satin mordoré et orné de boutons ronds en forme de mur. Chose étrange que sa mère n'était pas musicienne, bien que tante Kate eût coutume de l'appeler le cerveau de la famille Morcan. Toutes les deux, elle et Julia, manifestaient une certaine fierté à l'égard de leur grave et imposante sœur. Sa photographie se trouvait devant la glace à trumeaux. Elle tenait un livre ouvert sur ses genoux et désignait quelque chose à Constantin qui, en costume marin, était étendu à ses pieds. Elle-même avait choisi les prénoms de ses fils, étant très sensible au décorum de la vie de famille. Grâce à elle, Constantin était aujourd'hui curé à Balbrigane, et grâce à elle aussi, Gabriel avait obtenu son diplôme au Royal University. Une ombre passa sur la figure de Gabriel, au souvenir de la résistance obstinée que sa mère opposa à son mariage. Quelques mots blessants, prononcés par elle, traînaient encore dans sa mémoire. Elle avait parlé d'une fois de Greta comme d'une paysanne rouée. Et le jugement était tout à fait faux. Greta avait soigné la mère de Gabriel lors de sa dernière maladie à Monkstown. Il savait que Mary Jane allait terminer son morceau, car elle rejouait le prélude, auquel elle ajoutait une série de traits à chaque mesure, et tandis qu'il attendait la fin, son ressentiment expirait dans son cœur. Le morceau s'acheva par un trémolo à l'unisson dans les notes aiguës suivies d'un accord plaqué à la basse. De grands applaudissements saluèrent Marie-Jeanne, qui, rougissante, se roulant nerveusement son cahier de musique, s'enfuit du salon. Les applaudissements les plus énergiques venaient des quatre jeunes gens qui, étant retournés au buffet au début du morceau, en revinrent quand le piano se fut tu. On organisa un pas d'élancier. Gabriel avait Miss Hivorse comme vis-à-vis, demoiselle d'humeur bavarde et franche de manière. Le visage piqué de taches de rousseur et les yeux bruns à fleur de tête. Son corsage n'était pas décolleté, et la large broche fixée sur le devant de son col portait une devise et un emblème irlandais. Lorsqu'ils furent placés, elle lui dit brusquement « Nous avons un compte à régler tous les deux. » « Avec moi ?» dit Gabriel. Elle hocha la tête d'un air grave. « De quoi s'agit-il ? » demanda Gabriel, souriant de ses façons solennelles. « Qui est G.C. ?» répondit Miss Hivorse, tournant les yeux vers lui. Gabriel rougit et allait froncer les sourcils comme s'il faisait mine de ne pas comprendre quand soudain elle dit « Oh, Sainte Nitouche ! J'ai découvert que vous écrivez pour le Daily Express. N'avez-vous pas honte de vous-même ? »
Pourquoi aurais-je honte ? Demanda Gabriel, clinant des yeux et s'efforçant de sourire.
Eh bien, moi, j'ai honte de vous, dit carrément Miss Hivorse. Dire que vous écrivez pour un journal pareil ? Je ne croyais pas que vous étiez un Anglish.
Gabriel demeurait interdit. Il écrivait en effet un article littéraire dans le Daily Express tous les mercredis pour lesquels il était payé 15 shillings. Mais cela ne suffisait pas assurément pour en faire un Anglish. Il accueillait avec presque plus de plaisir les livres qu'il recevait pour ses comptes rendus que le chèque insignifiant. Il adorait sentir sous ses doigts le contact des reliures et feuilleter les pages des livres fraîchement imprimés. Presque chaque jour, ses heures d'enseignement au collège, une fois terminées, il avait coutume d'errer le long des quais jusqu'au bouquiniste de seconde main chez Hackett, sur les Bunchler Walk chez Webb, ou chez Massey sur le quai d'Aston, ou chez Oclohissey dans une rue de traverse. Il ne savait pas comment faire face à l'accusation de la jeune fille. Il aurait voulu répondre que la littérature était au-dessus de la politique. Mais c'étaient des amis de longue date et ils avaient mené une carrière de front, d'abord à l'université, puis dans le professorat. Il était impossible de risquer avec elle une phrase grandiloquente. Il continua à cligner des yeux et à tâcher de sourire, puis il bredouilla gauchement qu'il ne voyait rien de politique à faire des comptes rendus de livres. Quand ce fut leur tour de traverser, il était encore perplexe et distrait. Miss Hivers lui saisit vivement la main et dit d'un ton doux et amical, « Voyons, ce n'était qu'une plaisanterie. Venez, c'est à nous de traverser. » Lorsqu'ils se retrouvèrent seuls de nouveau, elle parla de la question universitaire, et Gabriel se sentit plus à l'aise. Un ami à elle lui avait montré le compte-rendu de Gabriel sur les poèmes de Browning. Voilà comment le secret fut découvert. Elle appréciait infiniment cette analyse. Puis elle dit tout à coup, « Dites donc, monsieur Conroy, ferez-vous une expédition aux îles d'Aran ? Nous allons y passer tout un mois, ce serait délicieux de se trouver en plein Atlantique. Vous devriez venir. » Monsieur Clancy vient aussi, ainsi que Monsieur Kilkelly et Kathleen Kearney. Ce serait si bien pour Greta si elle venait aussi. Elle est de Connacht, n'est-ce pas ?
Sa famille l'est, dit Gabriel sèchement.
Et vous, vous viendrez, n'est-ce pas ? Dit Miss Hayworth, appuyant avec empressement sa main tiède sur le bras du jeune homme.
À vrai dire, dit Gabriel, je viens justement d'arranger pour aller où ? Demanda Miss Hayworth.
Eh bien, vous savez, chaque année, je fais un tour à bicyclette avec quelques camarades, et alors...
Mais où ? Demanda Miss Hayworth.
Eh bien, nous allons habituellement en France ou en Belgique, peut-être bien en Allemagne, dit Gabriel embarrassé.
Et pourquoi allez-vous en France ou en Belgique ? Demanda Miss Hayworth, au lieu de visiter votre propre pays.
Eh bien, dit Gabriel, c'est en partie... pour entretenir la connaissance des langues et en partie pour faire un changement.
Et n'avez-vous pas à entretenir la connaissance de votre langue natale, l'irlandais ? Demanda Miss Hayworth.
Eh bien, dit Gabriel, puisque vous soulevez la question, vous savez, l'irlandais n'est pas ma langue.
Leur voisin s'était retourné pour écouter l'interrogatoire. Gabriel jeta un coup d'œil préoccupé à droite et à gauche et tâcha de conserver sa bonne humeur, malgré l'épreuve qu'il subissait et qui le faisait rougir jusqu'au front.
Et n'avez-vous pas votre propre pays à visiter ? Continua Miss Hayworth. Vous ignorez tout de vos compatriotes et de votre patrie.
À vrai dire, répliqua Gabriel, j'en ai par-dessus la tête de mon pays, par-dessus la tête.
Pourquoi ? Demanda Miss Hayworth.
Gabriel ne répondit pas, sa dernière repartie l'ayant échauffé.
Pourquoi ? Répéta Miss Hayworth.
Leur tour était venu pour la figure des visites, et comme elle n'obtenait pas de réponse, Miss Hayworth dit avec chaleur, « Vous voyez, vous ne trouvez rien à répondre. »
Gabriel tâcha de dissimuler son agitation en prenant une part active à la danse. Il évitait le regard de la jeune fille car il avait surpris sur sa figure une expression acerbe. Mais lorsqu'ils se croisèrent dans la grande chaîne, il fut surpris de se sentir la main serrée avec force. Elle le regarda un moment par-dessus ses sourcils d'un air railleur jusqu'à ce qu'il sourit. Puis juste au moment où la chaîne reprenait, elle se haussa sur la pointe des pieds et lui chuchota à l'oreille « Anglisch !»
Le bal allait bientôt se terminer. Devais-je m'en aller ou bien rester ? L'orchestre allait jouer le tout dernier morceau. Quand je t'ai vu passer près de moi, c'était la dernière valse. Mon cœur n'était plus sans amour. Ensemble, cette valse, nous l'avons dansée. Pour toujours. On s'est aimé longtemps, toujours plus fort. Nos joies, nos peines avaient le même accord. Et puis Un jour j'ai vu changer tes yeux. Tu as brisé mon cœur en disant adieu. C'était la dernière valse. Mon cœur restait seul sans amour. Et pourtant cette valse aurait pu durer toujours. Et si bien
en liberté, Denis Flagel.
Après la musique, nous revenons donc à la nouvelle de James Joyce, Les Morts. Les lanciers étant terminés, Gabriel se dirigea vers un des coins les plus reculés de la pièce où se trouvait assise la mère de Freddy Malins. C'était une grosse et faible vieille femme aux cheveux blancs. Tout ainsi que son fils, elle avait la voix enrouée et bégayait légèrement. Elle savait que Freddy était là et qu'il se tenait à peu près bien. Gabriel lui demanda si elle avait fait une bonne traversée. Elle habitait Glasgow, chez sa fille mariée, et venait à Dublin une fois par an. Elle répondit avec placidité qu'elle avait fait une traversée superbe et que le capitaine avait été plein d'attention pour elle. Elle parla aussi de la superbe maison qu'habitait sa fille à Glasgow et de tous les amis qu'on y avait. Tandis que sa langue allait bon train, Gabriel tâchait de bannir de son esprit le souvenir désagréable de ce qui s'était passé entre Miss Ivors et lui. Certes, cette fille ou cette femme, peu importait ce qu'elle fût, était une exaltée. Mais en toute chose, il faut choisir le bon moment. Peut-être n'aurait-il pas dû lui répondre de la sorte. Tout de même, elle n'avait pas le droit de le traiter d'anglish en public. Elle avait essayé de le rendre ridicule devant les autres, le harcelant de questions et le dévisageant avec des yeux de lapin. Il aperçut sa femme qui se frayait un passage vers lui à travers les couples de valseurs. Lorsqu'elle l'eut rejoint, elle lui dit à l'oreille « Gabriel !» Tante Kate voudrait savoir si vous comptez découper l'oie comme d'habitude. Miss Daly coupera le jambon et je me chargerai du pudding. Ça va, dit Gabriel. Elle fait rentrer les plus jeunes d'abord, sitôt après que la valse sera finie, de sorte que nous aurons la table pour nous. Vous avez dansé ? Demanda Gabriel. Bien sûr. Ne m'avez-vous pas vu ? « À quel propos vous êtes-vous disputé avec Miss Ivors ?»« Nous ne nous sommes pas disputés. Pourquoi ? Elle vous a dit cela ?»« Ou quelque chose d'approchant ?»« Je cherche à obtenir de M. Darcy qu'il chante. Il est bouffi d'orgueil, je crois. »« Nous ne nous sommes pas disputés, » dit Gabriel d'un ton morne. « Seulement, elle voulait me faire faire un tour dans l'ouest de l'Irlande et je lui disais que je ne voulais pas. » Sa femme fit un petit saut et joignit les mains avec ardeur. « Oh, allez-y, Gabriel !» s'écria-t-elle. « J'aimerais tant revoir Galway. »« Vous êtes libre d'y aller si cela vous chante, » dit Gabriel froidement. Elle le regarda un instant, puis se tourna vers Madame Malins et dit «
Voilà un gentil mari, Madame Malins. » Pendant qu'il se refaisait un chemin à travers le salon, Madame Malins, sans tenir compte de cette interruption, continuait à raconter à Gabriel quels beaux endroits il y avait en Écosse et quels beaux paysages. Son gendre les conduisait chaque année au lac et ils y allaient pêcher. Son gendre était un pêcheur de premier ordre. Un jour, il avait pris un beau gros poisson et l'homme de l'hôtel le leur avait fait cuire pour le dîner. Gabriel entendait à peine ce qu'elle disait. Maintenant que l'heure du souper approchait, il repensait à son discours et à sa citation. Quand il aperçut Freddy Malins qui traversait la pièce pour rejoindre sa mère, Gabriel lui passa sa chaise et alla se retirer dans l'embrasure de la fenêtre. Le salon commençait à se vider. Et de la pièce du fond parvenait un cliquetis d'assiettes et de couteaux. Ceux qui demeuraient encore au salon semblaient là de danser et causaient tranquillement par petits groupes. Gabriel tambourinait la vitre froide de ses doigts chauds et tremblants. Comme il devait faire froid au dehors. Comme il serait agréable de sortir seul et de se promener, de longer d'abord la rivière, puis de traverser le parc. La neige recouvrait sans doute les branches des arbres et coiffait d'un bonnet scintillant le monument de Wellington. Comme il ferait meilleur là-bas que dans la salle du souper. Il repassa mentalement les divers points de son discours. L'hospitalité irlandaise, les souvenirs tristes, les trois grâces, Paris, la citation de Browning. Il se remémora une phrase qu'il avait écrite dans un de ses comptes rendus. « On sent que l'on assiste à une musique torturée de l'esprit. » Miss Ivor savait louer l'article. Était-elle sincère ? Vivait-elle réellement une vie personnelle derrière le zèle de sa propagande ? Jamais jusqu'à ce soir, il n'y avait eu entre eux la moindre animosité. Il se sentait perdre contenance à l'idée qu'elle serait à table, et que tandis qu'il parlerait, elle lèverait sur lui des yeux critiques et railleurs. Peut-être ne serait-elle pas fâchée de le voir rater dans son discours. Une idée vint le raffermir. Il dirait, en se référant à tante Kate et à tante Julia, « Mesdames, messieurs, la génération qui est sur son déclin peut avoir eu ses défauts, mais, à son avis, possédait, je crois, certaines qualités d'hospitalité, d'humour, d'humanité, qui semblent faire défaut à la génération actuelle, génération fort grave et instruite à l'excès, que nous voyons grandir autour de nous. » Très bien, voilà pour Miss Haworth. Qu'importait à Gabriel que ses tantes ne fussent que deux femmes âgées et ignorantes. Dans la salle, une rumeur attira son attention. De la porte, M. Brown s'avançait, escortant galamment tante Julien qui souriait confuse et s'appuyait sur son bras, les yeux baissés. Une salve d'applaudissements lui fit également escorte jusqu'au piano, puis... Comme Mary Jane s'installait sur le tabouret et que tante Julia, qui ne souriait plus, se tournait à demi de façon à lancer sa voix dans la chambre, les applaudissements cessèrent peu à peu. Gabriel reconnut le prélude d'une vieille chanson de tante Julia, « Parée pour les noces ». D'une voix claire et sonore, elle entonna brillamment les roulades qui embellissaient la mélodie, et bien qu'elle chantât très vite, elle ne manqua pas la moindre appoggiature. Suivre la voix sans regarder le chanteur, c'était ressentir et partager la griserie d'un vol rapide et sûr. Gabriel applaudit bruyamment, comme tout le monde, quand la chanson prit fin. Et de la table du souper qui leur était invisible, de bruyants applaudissements leur parvinrent, vraisemblablement si sincères qu'une légère rougeur s'insinua sur le visage de tante Julia comme elle se baissait pour remettre dans le casier à musique le recueil de mélodies dont la reliure de cuir fatigué portait ses initiales. Freddy Malins, qui avait écouté, penchant la tête pour mieux entendre, applaudissait encore après que les autres avaient cessé et parlait à sa mère avec une animation pendant que celle-ci approuvait de la tête d'un air grave. Quand il fut à bout d'applaudissements, il se leva et courut à travers la chambre vers Tante Julia qui lui saisit la main entre les deux siennes, la secouant lorsque les mots venaient à lui manquer ou que son hoquet prenait le dessus.
« Je disais justement à ma mère, dit-il, que je ne vous ai jamais entendu chanter aussi bien que ce soir. Jamais !»«
Non, non, vous n'avez jamais été en voix comme ce soir, voilà. Le croiriez-vous, c'est la vérité. Parole d'honneur, la pure vérité. Jamais je n'ai entendu votre voix aussi fraîche, aussi claire, aussi fraîche. Jamais !»
Tante Julia s'épanouit et murmura quelque chose à propos des compliments en général, tandis qu'elle dégageait sa main de cette étreinte. M. Brown lui tendit la sienne et dit à ceux qui se trouvaient près de lui, à la façon d'un montreur de foire présentant un phénomène à l'assistance, « Miss Julia Morcan, ma dernière trouvaille !»
Il riait aux éclats de sa propre plaisanterie lorsque Freddy Malins se tourna vers lui et lui dit « Eh bien, Brown, si vous parlez sérieusement, vous pourriez tomber plus mal. » Tout ce que je puis dire, c'est que jamais je ne l'ai entendu chanter aussi bien depuis que je viens ici. Et c'est la pure vérité.
Moi non plus, dit M. Brown, je crois que sa voix a fait de grands progrès.
Tante Julia haussa les épaules et dit avec un timide orgueil, en fait, de voix, la mienne n'était pas vilaine il y a 30 ans.
« J'ai souvent dit à Julia, articula tante Kate, avec énergie que chanter dans ce chœur, c'était galvauder son talent, mais elle n'a jamais voulu m'écouter. »
Elle se tourna, comme pour faire appel au bon sens des autres, à l'encontre d'un enfant réfractaire, tandis que tante Julia regardait droit devant elle un vague sourire plein de réminiscence jouant sur son visage.
« Non !» poursuivit tante Kate. Elle n'a jamais voulu écouter ni moi ni personne. Elle s'escrimait dans ce chœur nuit et jour, à 6 heures du matin le jour de Noël. Et tout cela, à quoi bon ?
Eh bien, n'est-ce pas pour honorer Dieu, tante Kate ? Demanda Mary Jane, pivotant sur son tabouret de piano avec un sourire.
Indignée, tante Kate se tourna vers sa nièce et dit « « Je sais tout ce qui est dû à l'honneur de Dieu, Marie-Jane, mais je crois que ce n'est pas du tout à l'honneur du pape de renvoyer des chœurs toutes les femmes qui y ont peiné leur vie durant pour les remplacer par des marmots de rien. Je suppose que si le pape agit de la sorte, c'est pour le bien de l'Église, mais ce n'est pas bien, Marie-Jane, et ce n'est pas juste. »
Elle s'était échauffée et aurait poursuivi l'apologie de sa sœur, car c'était là pour elle un sujet cuisant si Mary Jane, voyant revenir les danseurs, ne fût intervenue en pacificatrice.
« Allons, tante Kate, vous êtes celle par qui arrive le scandale, et cela devant M. Brown, qui appartient à l'autre culte. »
Tante Kate se tourna vers M. Brown, que cette allusion à sa foi faisait ricaner, et dit vivement
« Oh, je ne discute pas les droits du pape, je ne suis qu'une vieille femme stupide et je ne me permettrai pas de le faire. Mais il existe tout de même une politesse et une reconnaissance de tous les jours. Et si j'étais Julia, je ne me gênerais pas pour le dire à la face du père Haley. »
Et d'ailleurs, tante Kate, dit Mary Jane, nous avons très faim et quand on a faim, on se sent d'humeur batailleuse.
Et quand on a soif aussi, ajouta M. Brown.
« C'est pourquoi nous ferions mieux d'aller souper, » dit Mary Jane. « Nous reprendrons plus tard cette discussion. »
Voilà, nous avons terminé pour ce soir et nous reprendrons demain la suite de la nouvelle de James Joyce, « Les morts ». Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.